Voilà, donc comme vous le savez, le thème ce matin que j'ai annoncé, c'est le titre que j'ai donné à ce message, est celui-ci. Pourquoi Dieu s'est-il reposé le septième jour ? Voilà. Pourquoi Dieu s'est-il reposé le septième jour ? Alors, pour ceux qui ne savent pas, le contexte, c'est le livre de la Genèse, on est en train de l'étudier, et on arrive au chapitre 2 ce matin. Donc, je recule un petit peu, on va lire à partir du chapitre 1 et le verset 26. Chapitre 1 et le verset 26, comme ça, ça nous replongera dans le contexte de ce qu'on a vu la semaine dernière. Ça va, Simon ? D'accord. Voilà. 1, 26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est sur la surface de toute la terre, tous les arbres ayant en lui du fruit de l'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Alors écoutez, je crois que la meilleure manière de procéder, c'est tout simplement de découper notre étude, comme vous le savez, j'aime bien les points, en 10 points. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est 10 facettes fascinantes concernant le jour du sabbat. Et nous allons, en examinant ces facettes, comprendre pourquoi Dieu s'est reposé le septième jour. D'accord ? Donc vous verrez, c'est assez simple et j'espère utile. Pour moi, c'était vraiment une étude fascinante. Alors, quelles sont ces 10 facettes fascinantes du jour du sabbat ? Numéro 1, le jour du sabbat marque l'achèvement de la création de Dieu. Le jour du sabbat marque l'achèvement de la création de Dieu. Regardez chapitre 2, le verset 1. « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. » Alors ici, je vais utiliser le mot « Shabbat » ou « Sabbat » parce qu'il est utilisé au verset 2 ici pour marquer ou définir le mot « repos ». Le mot « repos » en hébreu, c'est « Sabbat », d'accord ? Mais la loi du Sabbat en telle qu'elle n'existera pas avant Exode 16, on le verra tout à l'heure, et sera rééditée de manière formelle à partir de Exode 20. Donc le septième jour, ici au début du chapitre 2 de la Genèse, marque donc l'achèvement tout simplement de l'acte créateur de Dieu qui s'est déroulé au chapitre 1. Alors on sait que l'homme est déjà créé. Au chapitre 2, les détails, ça on le verra à partir de dimanche prochain, les détails supplémentaires vont être donnés sur la création et surtout sur la création de l'homme et surtout sur son mariage. Donc ça va être une étude intéressante et on reviendra sur ça la prochaine fois. Le mot « achevé » ici, regardez, hein, « ils furent achevés », ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée, c'est un mot important, très important. Car cela veut dire, écoutez bien, le mot « achevé » veut dire quoi ? Arrêter, terminer. Cela veut dire que la création de Dieu fut réellement terminée. Achevé, fini, abouti. Il n'y avait plus de dernier changement, dernière minute à effectuer. Il n'y avait pas des corrections à entreprendre non plus. Il n'y avait pas de modifications. Il n'y avait non plus des problèmes à réparer. Non, sa création, on apprend, est terminée. Tout fut créé en 6 jours de 24 heures, ça on l'a déjà vu. Et notez que tout a été créé selon le plan de Dieu. Il n'y avait pas d'erreur. Pas d'erreur. Et notez comment ces trois versets soulignent bien que toute son œuvre fut terminée. C'est ce qu'il dit au verset 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. C'est comme s'il doit réparer toute son œuvre qu'il avait faite. Oui, toute son œuvre que Dieu a faite, cette œuvre-là est terminée. Alors écoutez mes amis, on commence avec un truc vraiment pratique ici. Car ici, d'emblée, on voit des arguments de poids contre ce qu'on appelle les évolutionnistes théistes, ceux qui prétendent que Dieu a créé des espèces qui ont évolué pendant les millions d'années. Non, la création n'est pas un procédé. La création avait un début, Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et une fin, chapitre 2, verset 1, « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. » Il y a un début et il y a une fin, claire et nette. Et ce qui est fascinant à constater, c'est l'observation. Regardez autour de vous, d'accord? Et ce que vous allez constater, c'est que l'homme, alors écoutez bien ce que je vais dire, il est parfait. Dans notre création, on est parfait. Alors vous allez dire, non, John, là, je crois que tu te trompes. Attendez, moi, je vais expliquer. Je ne parle pas de morale, je parle de corporellement. Et vous dites, non, alors là, John, tu as vraiment un gros problème, on n'est pas corporellement parfait. Non, attendez, moi, je n'ai pas fini ma pensée, d'accord? L'homme est parfait dans le sens que rien chez lui n'est dans un stade d'évolution aujourd'hui. Rien dans l'homme n'existe qu'à moitié. Ni son cœur, ni son cerveau, sauf peut-être le mien, d'accord? Ni ses yeux, ni ses reins, ni son ouïe n'existent qu'à moitié. On ne voit pas des hommes ou des femmes se promener en ville avec des moitiés ou des demi-nez, des demi-doigts, des demi-cœurs, des demi-poumons, des demi-quantités de sang dans leur corps. Non, hormis des handicaps, alors on est d'accord, on est dans un monde déchu, il y a des handicaps. Mais si on enlève ces handicaps qui peuvent arriver, l'homme naît chaque fois totalement mature et pleinement fabriqué. Écoutez, c'est le côté incroyable d'un bébé. Un bébé, il naît, mais il est complet. La grande majorité des bébés naissent complets. Tout marche. Et tout grandit en plus en même temps. Heureusement, d'accord? C'est quand même remarquable d'y penser. C'est remarquable. Ceci est important car c'est précisément ce que affirme Genèse 2:1. Dieu a tout créé en 6 jours, et le 7e jour, c'était terminé. Terminé. Tout était parfait. Dieu était 100% satisfait. Rien n'avait besoin d'être modifié, rien. Et quel était le bilan de Dieu de sa propre création à la fin du 6e jour? Bah, regardez, le verset 31 du chapitre 1, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Le ciel, le soleil, la lune, les étoiles, la terre, la végétation, les animaux, les insectes, les poissons, les oiseaux, l'homme, tout fut créé. Et ce qui est intéressant à y penser, c'est que 6 jours avant, il n'y avait rien. Rien. Et en 6 jours, tout. Génial. C'est génial. C'est pour ça que Ecclésiaste 3:14 dit ceci. Je reconnus que tout ce que Dieu fait dure toujours, qu'il n'y a rien à ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Tout est fait. Ça, c'est le premier point. Premier truc qu'on apprend ici. Deux. Deuxième chose qu'on apprend sur le sabbat, c'est que le jour du sabbat marque le repos de Dieu. Marque le repos de Dieu. Ben oui. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Alors, la question, quand Dieu se repose, on se pose la question, alors quelle est la nature de ce repos? J'ai un truc dans mes lunettes là. Excusez-moi. Ah, d'accord, ça va beaucoup. Ah, je vous revois, d'accord, c'est super, d'accord. Quelle est la nature du repos de Dieu? Est-ce que Dieu, lorsque la Bible dit qu'il s'est reposé, est-ce que ça veut dire que Dieu était fatigué, il avait besoin de prendre une sorte de sieste, tellement ça lui a demandé de l'énergie de créer nous, de nous créer? Alors la réponse, bien sûr, vous la connaissez, c'est non. Alors la Bible est très claire sur ce sujet. Ésaïe 40 et le verset 28 dit ceci, « Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu d'éternité éternelle qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point et il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. » Donc, la Bible dit clairement qu'il ne se fatigue pas. Et le psaume 121, et le verset 4, le dit d'une autre manière, comme ceci. 121, verset 4, nous dit, « Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Donc, on est d'accord, Dieu n'a pas besoin de dormir, il ne sommeille pas, il ne se fatigue pas physiquement comme vous et moi on se fatigue. Non, le mot sabbat ici, le mot repos veut simplement dire un repos ou un arrêt de son travail créateur. Tout ce qu'il avait décidé de créer, maintenant créé, il n'y a donc plus rien à créer. Donc il a, et là j'invente un verbe, il a shabbaté. Il s'est arrêté de créer. Exode 31:17 dit la même chose. Il a pris un retrait de son travail. Alors vous savez, moi à l'époque, puisqu'on était souvent dans les appartements à Paris, et ensuite quand on est arrivé ici, j'ai appris à tapisser. Hein, le maître du tapissage. C'est compliqué le tapissage, je sais que vous avez déjà fait. Il y a des bulles qui apparaissent constamment. Et d'une manière ou une autre, je ne sais pas trop comment trouver la technique pour ne pas avoir trop de bulles. Alors maintenant, la prochaine fois que je vais faire, ça va être horrible, d'accord? Mais globalement, je m'en sors assez bien. J'ai même une table à tapisser, imaginez, j'ai les pinceaux, j'ai tout, d'accord? Et moi, je me rappelle, c'est un peu compliqué de tapisser. Il faut mesurer, il faut faire la colle et machin. Et ce que j'aimais, c'était de terminer le boulot. Et une fois que j'avais terminé de tapisser, de reculer et d'admirer mon travail. Ah ouais, je me disais... Ah, John, franchement, tu t'en sors relativement bien. Et c'est vrai qu'il y avait un moment de satisfaction. Voilà quelque part ce que Dieu est en train de faire ici. Il est en train de regarder sa création. Il recule et dit, waouh, génial ce que je viens de créer. Alors, moi, comme vous, j'essaie de prendre un jour de congé. Vous savez, c'est pas toujours le dimanche, bien sûr. Et donc, l'autre jour, Meg et moi, on a décidé de prendre un jour de congé, de faire un truc qu'on n'avait jamais fait de notre vie. J'avais jamais grimpé un sommet d'une montagne. Un sommet carrément comme ça, où on est tout dessus pour aller voir la vue à 360 degrés. J'avais jamais fait ça. Donc, on s'est dit, on va grimper le môle. Que c'est le môle? C'est le cône, là, qu'on voit, direction Flemme. Alors, on est allé. Alors on a regardé sur internet environ 2 heures, 2 heures et demie pour grimper le môle. Alors on a pris la voiture, on est monté jusqu'au parking. On voulait aller encore plus loin, mais on, hein. Et ensuite on s'est préparé. Ouais, je voulais monter jusqu'en haut, bien sûr. Là je me connais. Et alors on a commencé à marcher. Alors voilà, bon, on marche tous les jours 20-30 minutes, mais on n'est pas des grands marcheurs, il faut dire ce qui est. Alors on a commencé à grimper. On était dans les sapins, les arbres, c'est sombre, c'est humide, c'est un peu froid le matin. Puis après une heure, on est encore dans les sapins. Puis on s'est dit, on continue pas. Vraiment, on a eu le doute. Parce qu'après une heure dans les sapins, bon, bah d'accord, ils sont beaux les sapins, mais on voulait. Et on s'est dit, non, il faut continuer à cause de la vue. Une fois qu'on sera haut, il y aura une superbe vue. Alors on a persévéré, on a continué, on est monté. Écoutez mes amis, on s'est arrêté pour pique-niquer, d'accord, et à un moment donné, on est sorti des sapins. Waouh! Et là, il y avait le soleil, et tout d'un coup, ça nous a reboosté une nouvelle énergie, et on est remonté jusqu'en haut, tip-top du môle. Et là, waouh! La vue à 360 degrés. Si vous n'avez pas encore vu, allez sur ma page Facebook, j'ai mis la vidéo, d'accord? 360 degrés, c'était majestueux. Une vue à couper le souffle. Il faisait grand beau, grand beau. Et ça valut la peine. Je vous en parle aujourd'hui. Tellement ça a valu la peine de faire cet effort. Alors c'est la grande différence entre Dieu et nous. Lui, il n'y a eu pas d'effort. Il n'y a pas eu d'effort, il n'a pas perdu de l'énergie, mais il a admiré son œuvre. Et nous, une fois en haut, on a pu admirer cette immense vue tout autour. C'était majestueux, majestueux et encore majestueux. Donc, voilà ce que Dieu fait ici lorsqu'il se repose. Lorsqu'il se repose, il regarde et admire sa création. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne fait plus rien? Non, alors c'est intéressant, dans Hébreux 1, 3, la Bible nous dit qu'il soutient toutes choses. Et dans Colossiens 1, 17, pareil. Pareil, parlons de Christ. Colossiens 1, 17, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Alors c'est intéressant, Dieu ne crée plus, mais il fait que tout continue. Pensez-y, pourquoi est-ce que votre cœur bat? Pourquoi est-ce que vous respirez même quand vous dormez? Pourquoi est-ce que vos reins continuent à marcher? Pourquoi est-ce que les plantes continuent à pousser? Pourquoi est-ce que les cycles de saison continuent à avoir lieu? Dieu maintient toutes ces choses pour que la vie continue sur terre. Deuxième chose qu'on apprend. Troisième chose qu'on apprend par rapport au sabbat. Le jour du sabbat est un jour béni par Dieu. Béni par Dieu. Verset 3, regardez, Dieu bénit le septième jour. Il bénit le septième jour. C'est intéressant ce mot bénir, il l'avait déjà utilisé pour parler de Adam et Ève. Mais le mot bénir veut simplement dire combler quelque chose de bien, faire prospérer, donner une faveur divine. Il est dit que Dieu bénit Abraham par exemple. L'idée de bénir, c'est simplement de faire du bien à quelqu'un. Mais ici, Dieu bénit le septième jour. Il bénit un jour. C'est étonnant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu confère sur ce jour une faveur particulière et des bénédictions particulières qui n'étaient pas présentes sur les autres jours. Le jour 7 est différent que les jours en 6. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Alors notez, c'est quoi un septième jour? Un septième jour, c'est un concept de temps. C'est du temps. C'est du temps. En fait, il est en train de bénir un septième du temps alloué aux hommes et bénit cette septième portion de temps de manière particulière afin que ce temps soit utilisé pour une cause noble. Pas pour dire que le travail n'est pas une cause noble, mais une cause noble autre que le travail. Alors, j'ai fait un calcul. Il y a 168 heures par semaine. Si vous enlevez un jour, 24 heures, il vous reste 144 heures. Donc, sur nos 168 heures, 144 heures d'activité, si vous voulez, bon, j'inclus le sommeil, d'accord, là-dedans, et 24 heures pour le Shabbat, si vous voulez. D'accord? Pour ce jour à part. Donc, petite application. Vous dites, John, je suis tellement occupé dans la vie. Si tu voyais les mails que j'ai besoin de répondre, j'arrive pas à tenir. 144 heures devraient te suffire par semaine. Parce que 144 heures ont suffi à Dieu. Donc, si ça suffit à Dieu, ça devrait probablement nous suffire aussi. C'est juste. Non, je reviens, on en reparlera tout à l'heure, d'accord? Alors, c'est intéressant, la phrase « Dieu bénit le septième jour » est une petite phrase remplie donc de grâce et de joie et de bonté à notre égard. Imaginez, Dieu bénit le septième jour. Ce septième jour, on va le voir dans le reste de la Bible, il est pour nous ce jour. Nous allons en profiter. Donc, Dieu bénit le jour et bénit ce temps pour nous, quelque part. Pour nous. C'est un acte de grâce le plus total. « Je te bénis ». Je te donne ce que tu n'attends pas et ce à quoi tu ne t'attends pas, un jour particulier de grande bénédiction, différent des autres six jours, et cela pour te faire du bien. Donc, il crée ce jour pour qu'il devienne un objet de bénédiction pour nous, pour nous faire du bien. Il est utile, il est utile. Quatrième chose qu'on apprend. Le jour du sabbat est un jour sanctifié par Dieu. Regardez encore le verset 3. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Il le sanctifia. Donc, le mot sanctifier est différent que le mot bénir. Alors, le mot sanctifier, littéralement, veut dire déclarer quelque chose de saint. Autrement dit, mettre à part. Mettre à part. Pour une cause sainte ou une cause noble. Ici, l'idée, c'est que Dieu prend un jour, il le met à part pour une utilité particulière, noble et sainte pour lui. Il met ce jour à part pour que lui, ici dans le contexte, puisse arrêter son œuvre créatrice et contempler sa création avec satisfaction. Exode 21, c'est pourquoi Dieu a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Le même mot est utilisé pour décrire le mont Sinaï, qu'il l'a sanctifié. C'était, à un moment donné, ce mont était saint. Il était, pas n'importe qui pouvait faire n'importe quoi avec ce mont. Exode 29, 44 nous dit que les prêtres sont sanctifiés, sont mis à part pour une œuvre spéciale pour le Seigneur. Lévitique 25, 10 parle de l'année de jubilé tous les 50 ans, une année spéciale mise à part pour une fonction particulière. Donc on peut dire que le jour de sabbat, ce septième jour, a été créé par Dieu pour nous bénir, c'est ce qu'on vient de voir, pour nous combler de bien-être et de joie, mais pour qu'il soit sanctifié, mis à part pour son service. C'est un jour en particulier mis à part pour lui. On pourrait dire que le septième jour, c'est son jour. C'est son jour. Donc voici les premières quatre choses qu'on voit dans ces quelques versets. Mais j'aimerais continuer. J'aimerais aller plus loin dans la parole de Dieu par rapport à cela. Parce qu'ici, on a vraiment le jour du repos, comme il était initié par Dieu pour lui-même. Mais ce qu'on voit, c'est que ce jour de repos va devenir normatif pour le peuple d'Israël. Donc on va développer un petit peu l'histoire. Donc voyons la cinquième, le cinquième point clé sur le jour du sabbat que nous apprenons. Numéro 5, le jour du sabbat marque le repos d'Israël. Marque le repos d'Israël. Allez avec moi, Exode, deuxième livre de la Bible, chapitre 16. Alors, c'est ici qu'on commence à voir le côté officiel de ce sabbat pour les hommes. Je vais juste lire les versets, à partir du verset 22. Le sixième jour, ils amassèrent une quantité, donc c'est le peuple d'Israël dans le désert, d'accord ? Dieu vient de leur donner de la manne, et ensuite, dans cette manne, ils la récoltent. Et regardez ce qu'il est dit au verset 22. Le sixième jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, deux homères pour chacun. Tous les principaux et l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Et ils le laissèrent jusqu'au matin comme Moïse avait ordonné et cela ne devint point infect et il ne mit point de verre. Moïse dit, mangez-le aujourd'hui car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans les campagnes. Pendant six jours, vous en ramasserez, mais le septième jour qui est le sabbat, il n'en aura point. Donc c'est la première référence du sabbat comme un jour officiel. Officiel. Alors il va être encore plus officialisé dans les 10 commandements. Tout simplement ici, c'est qu'il a dit, la manne, Dieu la donne, ramassez double portion le sixième jour, et le septième jour, Vous aurez déjà la portion, vous n'aurez pas besoin d'aller en chercher. C'est le septième jour de repos. Allez avec moi maintenant dans Exode 20, regardez. Exode 20, à partir du verset 8. On est dans la liste des 10 commandements. Et là, on est en train de lire le quatrième commandement à partir du verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Alors là, on voit maintenant vraiment cette loi officialisée qui fait partie des 10 commandements. Alors verset 8, le jour c'est le mot Yom, repos, Shabbat, le jour du Shabbat. Alors ici mes amis, au fait, juste encore des petits détails intéressants, nous avons un des grands arguments et les plus redoutables pour la longueur des jours de la création. Comment est-ce qu'on peut conclure que les 6 jours de la création sont chacun des millions d'années lorsqu'ici, il est question du septième jour comme étant clairement un jour normal du calendrier juif, un jour de 24 heures. Regardez ce qu'il dit, verset 11. Il dit alors, prenez le jour du repos, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et s'il s'est reposé le septième jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Clairement, il est en train de dire dans le quatrième commandement, il est en train d'instaurer un jour de 24 heures pour Israël. Et la raison qu'il donne ce jour de 24 heures, c'est que Dieu a créé pendant 6 jours et s'est reposé un jour. Alors comment est-ce qu'on va promouvoir un jour de 24 heures si les jours que Dieu a utilisés pour créer étaient des millions d'années? C'est même pas logique. Ici, si c'est pas un jour de 24 heures, t'as un problème avec la parole de Dieu. C'est vraiment compliqué d'avoir autre chose que 24 heures ici. Ça, c'est un petit détail. Et alors, de nouveau verset 8, on a, de nouveau dans les 10 commandements, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. » De nouveau, le mettre saint, le mettre à part. Le verset 9, « Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. » Donc là, on apprend que ce fameux jour de repos que Dieu est en train d'instaurer vient après le travail. Donc ici, nous avons ici l'éthique du travail. Dieu est en train de dire que quand tu travailles, travaille top niveau pendant 6 jours, et quand tu te reposes pendant le septième jour, repose-toi à top niveau. D'accord ? C'est vraiment à fond ici. Ils étaient appelés à travailler 6 jours, puis se reposer un jour. Le septième jour, verset 10, c'est le jour du repos. Aucun travail ne devait être effectué le septième jour. Alors moi, j'ai fait un petit calcul encore supplémentaire. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait 168 heures par semaine. Divisé par 7, ça fait 24 heures par jour. Un jour, c'est en fait 14,2% de la semaine qui devrait être consacrée au repos et au Seigneur. 14,2%. Intéressant quand même d'y penser, vous qui aimez les chiffres et les mathématiques. D'accord ? Alors, il devrait être quoi ce jour ? Verset 10 le dit. Un jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Ce n'était pas un jour purement d'inactivité, de repos physique, bien sûr, ça c'était compris. Ce jour était un jour de repos, mais un jour qui appartenait à Dieu, qui devait être consacré à Dieu et pas à soi-même et à son travail. Le regard était différent ce jour-là. Alors, regardez verset 10, c'est intéressant. Qui devait se reposer ? Alors, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni le bétail, ni l'étranger qui est dans les portes. Alors moi, je me suis posé la question, mais pourquoi les animaux ? Vous avez déjà pensé à ça ? Les animaux doivent célébrer le sabbat ? C'est étrange. Alors, peut-être pas le célébrer. Reposer. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient une partie importante dans la communauté. Ils devaient donc aussi, eux, bénéficier du repos. Alors moi, je me suis posé cette question. Je me suis dit ça. Je me suis dit ceci. Si les animaux devaient se reposer, peut-être que les hommes doivent vraiment se reposer. Même les animaux doivent se reposer. Donc Dieu voit l'importance du repos. On doit se reposer. Alors, c'est quoi le but du jour du sabbat? Bon, on le voit, les choses commencent, deviennent claires. Un repos physique de son travail ordinaire, un jour sanctifié, mis à part pour Dieu. Dans Ézéchiel, juste quelques versets intéressants, dans Ézéchiel 46:3, excusez-moi, la lumière n'est pas très bonne, donc je n'arrive pas à utiliser mes lunettes, donc c'est un peu plus compliqué pour moi de me retrouver, mais ça va. Sans mes lunettes, ça va beaucoup mieux. Alors j'en suis dans Ézéchiel 46:3, dit « Le peuple du pays adorera l'Éternel à l'entrée de cette porte au jour de sabbat et aux nouvelles lunes. » L'idée ici, c'est qu'il adorera l'Éternel le jour du sabbat. Donc, on voit que c'est une célébration de l'Éternel. Le jour du sabbat a comme but célébrer l'Éternel. Donc, on se dévie de son travail ordinaire avec un objectif de célébrer l'Éternel. Dans Lévitique 23 et le verset 3, il nous donne une autre facette. 23:3 dit ceci. « On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toute sa demeure. » Une sainte convocation. Waouh, une sorte de... Dieu nous appelle, une sorte de convocation, un rassemblement pour célébrer l'Éternel. L'attitude est très intéressante dans Ésaïe 58:13. L'attitude qui... devait être, 58:13, d'où ici, si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais le sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies et ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Hein, c'est intéressant, il dit ici, si tu fais du sabbat tes délices. Hein. Donc le sabbat devrait être un délice pour nous. Quand je pense à délice, je pense à une glace avec du chocolat dessus, de la crème fouettée sucrée. Moi j'aime ça. J'aime aussi les profiteroles. Hein, c'est une sorte de un chou, la glace, plein de chocolat. Moi, quand je mange ça, franchement, je ne pense plus à rien. C'est un délice du palais. Puis ça sent bon en plus, d'accord? Ben, quelque part, le sabbat, ça devrait être ça. Ça devrait être un délice pour notre âme. Pourquoi? Parce que nous célébrons le Seigneur. Dans Luc 4, vous vous rappelez, quand Jésus est rentré dans la synagogue, il lisait les Écritures. Il a pris le rouleau, il a lu. Donc le sabbat, c'est un moment où nous lisons l'Écriture. Et dans Acte 13, c'est intéressant aussi, autre chose qui se passait le sabbat, Acte 13 et le verset 14. De Perge, ils poursuivirent leur route, ils arrivèrent à Antioche de Pisidie, étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, le chef de la synagogue leur envoyèrent dire, « Homme, frères, si vous avez quelque exhortation à adresser au peuple, parlez. » Paul se leva, ayant fait signe de sa main, il dit, « Homme israélite, il commence son message. » Voilà, il y avait la lecture de la parole de Dieu. Bien sûr, Paul était connu, c'était un pharisien, on lui donne la parole, et il y a la prédication de la parole. C'est ce que Jésus a fait aussi dans Nazareth. Donc, tous ces éléments font partie de ce jour mis à part, un jour mis à part de notre travail régulier pour le consacrer au Seigneur d'une manière ou d'une autre. Alors, tenez-vous bien. À l'époque, quelle était la conséquence de ne pas obéir au quatrième commandement? Exode 31, je vous le lis. Exode 31, verset 12. Tenez-vous. L'Éternel parle à Moïse, donc Exode 31, 12, et dit, parle aux enfants d'Israël, et dit-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et nous, et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Peine capitale. Waouh. Je continue. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort, au cas où on n'a pas compris la première fois. D'accord ? Alors, je me suis dit, si c'était la peine de mort pour ne pas respecter le sabbat, moi je me dis, c'est quand même quelque chose d'assez important. C'est quand même, je dirais, peut-être très important. En fait, c'est tellement important que c'était une question de vie et de mort dans la parole de Dieu. Très, très intéressant. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail. Dans Exode 20, ils donnent bien sûr leur raison pour le jour du sabbat, la création. Donc, Dieu a créé pendant 6 jours et ensuite il s'est reposé. Dans Deutéronome 5, 16, il y a aussi tout le côté de la rédemption. Il dit que le jour du sabbat doit être respecté à cause de l'Exode. Et là, il y a tout un côté de rédempteur. Simplement, c'était un rappel de cette rédemption. Et ensuite, dans Exode 31, il parle aussi d'un signe de l'alliance. Il y avait une alliance que Dieu a fait avec son peuple, et le signe de l'alliance, c'est un petit peu comme un anneau pour le mariage. Moi, je suis marié avec Meg, voici le signe de notre mariage, ça le scelle. Et ici, il dit tout simplement que c'est l'alliance signée le jour du sabbat. Il n'y a que le peuple juif qui a été ordonné d'avoir un sabbat. C'était unique, ce peuple juif. Donc c'était le signe entre lui et ce peuple. 6. Le jour du sabbat fut corrompu par les pharisiens à l'époque de Jésus. Voilà, les 10 commandements sont clairs. Et pour toutes ces prochaines années, le peuple d'Israël a beaucoup respecté le sabbat. Mais il était corrompu. Et je vais vous montrer comment il était corrompu rapidement, c'est très très intéressant, d'accord ? Après l'exil des Juifs en Babylonie et leur retour en Israël, il y avait une période de 400 ans entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et beaucoup de choses ont changé avec le sabbat. Et alors, par souci de sauvegarder la loi du sabbat, comme on bâtirait un mur autour d'une maison pour la protéger, les pharisiens et les scribes juifs ont commencé à définir en détail leur perception de la loi du sabbat et ont commencé à réguler. Alors, je vous donne un exemple comment ils ont fait, d'accord ? Par exemple, Jérémie 17, 21, écoutez, dit ceci. « Prenez garde à vos âmes, ne portez point de fardeau le jour du sabbat. » Ne sortez de vos maisons aucun fardeau le jour du sabbat, ne faites aucun ouvrage, mais sanctifiez le jour du sabbat comme je l'ai ordonné à vos pères. Donc, ce verset dit qu'il ne faut pas porter des fardeaux le jour du sabbat. Donc, c'était une protection de dire, mais quand tu travailles 6 jours, ne travaille pas le 7e jour. Donc, ne porte rien le 7e jour. Alors, la question que se sont posées les pharisiens est celle-ci. Quel fardeau spécifiquement avait-on le droit de porter le jour du sabbat sans que cela soit considéré une violation du loi du sabbat? Soyons plus précis. Il voulait préciser encore plus que la Bible précise. Comment définir un fardeau convenable le jour du sabbat? Eh bien, selon les rois rabbiniques, le jour du sabbat, voici ce qu'ils ont dit, je vous le dis, d'accord? Alors ça va vous faire un peu rire, mais on va revenir sur là-dessus, c'est pas le but, d'accord? Selon eux, le jour du sabbat, on avait le droit de porter de la nourriture égale au poids d'une figue sèche. Si l'objet ne pesait que le poids égal à la moitié d'une figue sèche, alors tu pouvais porter 2 fois le poids. Tu veux porter assez de lait pour pouvoir en avaler une gorgée. Tu pouvais porter assez de miel pour sur une blessure. Et tu pouvais porter assez de papier pour écrire un mot. Ça, c'était la loi rabbinique par rapport à Jérémie. Autre exemple, Exode 16, 29 dit que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Alors ils se sont dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ne pas sortir du lieu où je suis pendant le 7e jour? Il faudrait être plus clair pour savoir si je viole ou pas ce commandement. Alors ils ont réfléchi. De manière aléatoire, ils ont décidé que si tu devais quitter ta maison le jour du sabbat, alors tu pouvais aller à 2000 cubits de distance, donc 914 mètres. Mais si un homme, le jour précédent le sabbat, avait déposé assez de nourriture pour 2 repas à cet endroit, alors il pouvait continuer encore 2000 cubits de plus, donc 914 mètres de plus. Vous dites, waouh, hein ? C'est un petit peu étrange, on n'est pas habitué à ce genre de règles. Alors, moi je vous montre ces choses pas pour qu'on se moque, parce que j'avoue que c'est un peu rigolo tout ça. Mais pour comprendre, écoutez bien, comment on peut facilement perdre l'esprit d'une loi et en faire une religion. Et voilà ce qui s'était passé ici. Les scribes passaient des heures et des heures pour définir en grand détail ce qui constituait travail ou pas. Et alors, ils avaient tellement de lois et tellement de règles que les gens ne s'y retrouvaient plus. Ils ne savaient plus ce qu'ils avaient le droit de faire ou pas faire. Donc, c'était un poids. Ils étaient paralysés par la peur de violer telle ou telle loi. Et c'est pour ça que finalement, Jésus, dans Matthieu 15, le verset 3, dit, il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de vos traditions ?» Matthieu 15, 6, « Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de vos traditions hypocrites. » Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Voilà, ils ont vraiment tout changé en mal, dans ce sens-là. Alors, 7, le jour du sabbat fut rectifié par Jésus. Et là, dans Matthieu 12, on a un exemple de conflit entre Jésus et les pharisiens par rapport au jour du sabbat. Vous connaissez l'histoire. Je la lis très très brièvement, avec juste un ou deux petits commentaires. Matthieu 12, 1, en ce temps-là, Jésus traversait les champs de blé le jour du sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis à en manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, « Voici tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le jour du sabbat. » Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu que ce fit David, lorsqu'il eut faim, et ceux qui étaient avec lui ?» Alors, il y a un conflit. Les pharisiens voient les disciples dans un champ en train de, le jour du sabbat, en train de manger des épis. Et ils disent, « Ah non, interdit, tu viens de violer la loi. » Alors, c'est faux, ils ne l'avaient pas violé parce que Deutéronome 23, 24 et 25 autorisent ce qu'ils ont fait. Mais la réponse de Jésus est très intéressante. Il dit, regardez au verset 3, « Mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que David fut lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea des pains de proposition qui n'étaient pas permis de manger ni à lui ni à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls ?» Réponse de Jésus, les pains de proposition n'avaient pas le droit de les manger, mais David les a mangés sans aucune conséquence. Il n'a pas été reproché pour avoir, dans un moment de besoin, mangé ces pains qui n'auraient dû être mangés que par les prêtres. Pourquoi ? Car le besoin du moment a surpassé la loi cérémoniale des pains de proposition. Il y avait l'esprit de la loi derrière. Et le verset 5, regardez, ça m'applique à moi. Où n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours du sabbat, le sacrificateur viole le sabbat dans le temple sans se rendre coupable ? Ben oui, si tu étais au jour du sabbat et tu voulais sacrifier un animal, c'est qui allait le sacrifier ? C'était le sacrificateur. Ben lui, il travaillait le jour du sabbat, donc il violait le sabbat, puisqu'il travaillait le jour du sabbat. Bonne réponse, Jésus, excellent la réponse. Jésus est en train de dire quoi ? Même pas Dieu qui lui-même a donné la loi du sabbat dans le décalogue, n'est aussi rigide que vous dans l'application de la loi. Vous êtes plus rigide que même Dieu l'est, puisque Dieu permet David et permet à ses prêtres de violer le sabbat. Alors, on arrive vraiment à la fin, 8, le jour du sabbat avec comme but pointé au Messie comme source ultime du repos. Dans ce même texte qu'on vient de lire, regardez le verset 6. « Or, Jésus dit, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné les innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Vous savez ce que Jésus est en train de dire ici ? Écoutez les gars, vous n'avez rien compris. Oui, le sabbat est important, mais le Fils de Dieu est maintenant ici, et je suis le maître du sabbat. Jésus affirme que la présence du Fils de Dieu, parlant de lui-même bien sûr, est plus importante que le tabernacle de Dieu, que le temple de Dieu et que le sabbat de Dieu. Ben, la logique suit que si celui qui est plus grand que le temple de Dieu, plus grand que le sabbat de Dieu est là, s'il est là, donc le Fils de Dieu est là, le seul qui a l'autorité de juger ce qui constitue une violation au nom du sabbat, c'est lui. Verset 7. Il affirme ici, que la miséricorde surpasse l'obéissance mécanique d'une loi cérémoniale. Votre problème, pharisiens, c'est que vos règles stupides ont banni de votre cœur la miséricorde, la compassion et l'amour. Un homme peut avoir faim, mais au lieu d'avoir pitié de lui, de pourvoir à sa faim, vous dites « Stop, c'est le jour du sabbat ». C'est ridicule. C'est ridicule. Et c'est ce qu'on voit au verset 9, étant parti de là, Jésus est dans la synagogue et voici s'il trouvait un homme qui avait une main sèche. Et ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat? Non mais juste la question, elle est dingue quoi. Ils disent, ah, on ne faut pas travailler le jour du sabbat, donc une guérison ce serait du travail. Donc il ne faut surtout pas guérir quelqu'un le jour du sabbat. Non mais, vous voyez, c'est jusqu'à là que ça a été leur raisonnement. Il leur répondit, lequel d'entre vous s'il n'a pas une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour la retirer. Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat. Alors il dit à l'homme, étends la main, il étendit, elle devint saine comme l'autre. Il le guérit, tac, juste devant eux, et regardez la réaction, c'est fou. Verset 14, les pharisiens sortirent et se consultèrent sur le moyen de le faire périr. Il faut qu'on tue Jésus, il a guéri le jour du sabbat. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. La clé, c'est le verset 8. Car le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Il est le Messie. Il est là. Tout pointait vers lui. Et puisque le maître du sabbat est ici, le sabbat lui-même, quelque part, n'est même plus d'actualité. Il est caduque. Le but, c'est que le Messie nous donne du repos. Le sabbat pointait vers le Messie. Mais oui, c'est ce que Matthieu 11 dit juste avant. Jésus dit dans verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Mais oui, et on voit que dans Colossiens 2, bien sûr, regardez, Colossiens 2, 16, « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, ou d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en crise. » Mais oui, regardez voir, si je mets une ombre ici sur la table, l'ombre elle est peut-être importante, ça c'était le sabbat. Mais quand ma main qui fait l'ombre tombe sur la table et il n'y a plus l'ombre, ben la main est bien plus importante que l'ombre, non? C'est la main qui crée l'ombre. Le texte de Colossiens nous dit que l'ombre c'est le sabbat, mais Christ, lui, le sabbat, lorsqu'il est arrivé, l'ombre disparaît. L'ombre disparaît. Vous pouvez regarder Galates 3, Galates 4, Hébreux 10, qui nous disent exactement la même chose. C'est comme les sacrifices. Une fois que Jésus est arrivé, lui qui est mort une fois pour toutes pour les péchés des hommes, les sacrifices sont arrêtés. Ça mène au point 9. J'ai presque fini. Le jour du sabbat a peu à peu été remplacé par le dimanche après la résurrection de Jésus. Ah oui, les chrétiens ont réalisé ça. Ils ont dit, voilà, Jésus est là, le Fils de Dieu, le Messie, Dieu incarné est là. Les sabbats, maintenant, n'ont plus la même valeur qu'avant, puisque Christ est là, lui, c'est notre repos. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on voit dans le Nouveau Testament, ben, tout d'un coup, il y a un sort de changement qui s'effectue. Ben oui, Jésus, Jean 20, verset 1, nous dit que Jésus est né. Il est ressuscité le premier jour de la semaine, un dimanche. Et c'est pour ça qu'il est dit dans Actes 26 et 7, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Pourquoi le premier jour de la semaine est-ce qu'ils étaient réunis? Dans Corinthiens 16, 2, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir des dons. Donc on voit que dans le Nouveau Testament, peu à peu, le dimanche remplace le sabbat, parce que les chrétiens ont réalisé que le sabbat n'était plus d'actualité comme il l'était avant l'arrivée de Christ. Et même les pères de l'Église parlent à ce sujet. Ceci mène au dernier point, numéro 9. Le jour du sabbat n'est pas normatif pour les chrétiens. Nous ne sommes pas des sabbatériens. Le sabbat n'est pas le jour qui nous est imposé, mais l'esprit du sabbat. Non, Christ est là. Dans Genèse 2, Dieu a arrêté son travail de création pour se reposer et admirer sa création. Dieu devient notre exemple suprême pour un repos d'activité, un jour par semaine. La loi mise en place dans l'Ancien Testament souligne cette nécessité. Et donc, il est juste que les croyants suivent cet exemple que même Dieu lui-même a mis en place pour lui-même, si on veut. Et depuis le Nouveau Testament, eh bien, les chrétiens mettent le dimanche de côté pour commémorer la résurrection. Alors c'est important, ce n'est pas un sabbat chrétien, nous ne sommes pas des sabbatériens. Aucune exigence ne nous est imposée ce jour. Notre vrai repos, comme nous l'avons vu, est en Christ ressuscité. Dimanche n'est qu'un jour choisi où nous venons adorer le Seigneur ensemble. Donc voici l'application pratique. Écoutez, je termine avec ça. Nous devons travailler 6 jours et travailler à la gloire de Dieu. Comme Dieu, nous devons prendre un jour par semaine, au moins 14,2% pour les gens qui aiment les chiffres, d'accord? Alors je ne veux pas être... C'est faux ce que je suis en train de dire, parce qu'on n'est pas sabbatérien. On n'est pas à 14%. C'est un principe ici, un principe. Comme un jour de répit de notre activité de travail. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire pendant ce jour? Eh bien, si on résume tout, voici ce qu'on devrait faire. Un jour de repos. Un jour sanctifié, mis à part. Un jour pour admirer notre création et remercier Dieu pour ce privilège. Un jour de célébration. Un jour de délices en notre Dieu. Un jour de sainte convocation avec d'autres pour adorer Dieu. Un jour pour écouter la lecture de la parole de Dieu. Un jour pour écouter la prédication de la parole de Dieu. Voilà ce qu'on devrait faire. Alors écoute bien ce que je vais dire. Si tu n'as pas le temps pour un tel jour, alors tu es plus occupé que Dieu. Tu es plus occupé que Dieu. Et si tel est le cas, moi je me demande s'il y a peut-être un déséquilibre dans ta vie. C'est intéressant que Jean dit à des chrétiens dans 1 Jean 5, 21, « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Est-ce que d'une manière subtile, le travail pour toi est devenu une idole? Est-ce que l'argent, la réussite, l'orgueil, le succès, ton achèvement personnel a pris le dessus? C'est une question légitime. Certains boulots demandent une absence de week-end et les dimanches. Alors, ça, on peut le comprendre. Il y a des métiers qui sont comme ça. C'est dur de ne pas aujourd'hui avoir parfois des demandes le dimanche. Mais si les absences sont souvent et la vie spirituelle commence à souffrir, alors là, il y a peut-être un problème. À quel moment faut-il considérer changer de travail si ton travail prend systématiquement tes dimanches? Alors peut-être, il y a d'autres églises qui ont des cultes le vendredi ou le samedi, peut-être. Peut-être il faut trouver une autre combine. Mais de sacrifier un jour pour le Seigneur, ça c'est dangereux, surtout sur une longue période de temps. Prenez l'habitude vite d'être régulier, régulier, régulier. Est-ce que c'est un péché de travailler le dimanche? Non, je ne pense pas, nous ne sommes pas sabbatériens. Mais un jour de repos, il faut l'avoir. Il faut l'avoir. Ça, c'est capital. Je termine avec ce verset. J'ai dit ça 3 fois déjà. C'est horrible. Je dis toujours aux jeunes prédicateurs, ne dis pas, je conclue 3 fois de suite. Je viens de le faire, d'accord? C'est vraiment compliqué. Mais là, je termine vraiment. Je termine avec ceci. Hébreux 10, 24. Vraiment intéressant. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. Nous avons besoin, mesdames, besoin de nous réunir ensemble. Amen. Amen. Je ne pensais pas que j'allais finir aujourd'hui. Seigneur, vraiment merci parce que c'est toi qui as inventé l'idée d'un jour du repos. Merci. C'est vraiment une bénédiction de pouvoir nous réunir comme ça ensemble et passer du temps avec toi, avec les uns les autres, Seigneur. C'est un privilège. Pardonne-nous parce que le jour de repos peut devenir mécanique. Seigneur, permets-nous jamais de venir t'adorer mécaniquement. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Merci. Amen. Quelqu'un va peut-être poser la question, mais Nous, on a deux jours de congé, non? Vous avez pensé à ça? Alors, ma réponse est celle-ci. Le samedi, est-ce que c'est vraiment un jour de congé? D'habitude, le samedi, c'est le jour où on fait tous les trucs que vous n'avez pas eu le temps de faire la semaine, n'est-ce pas? La différence, c'est que vous n'êtes pas rémunéré. C'est pas vraiment un jour de repos. C'est vrai, hein? C'est pas un jour de repos le samedi. Le dimanche, on devrait techniquement pouvoir vraiment décompresser et bénir le Seigneur.